Turgenev, la première des choses qui lui a paru insupportable en Russie, c'était le servage.
Françoise Flamand, traductrice.
Et il a connu, il a vu notamment sa mère se conduire d'une manière absolument indigne, selon lui, avec les serfs, alors que lui, il avait très, très enfant, tout enfant. Il les avait aimés, il les avait appréciés, ils avaient peut-être été même pour lui un refuge, parce que sa vie de famille avait été dure.
Ça peut pas faire de mal.
Et donc c'est quand il allait se promener dans la campagne auprès, qu'il rencontrait la chaleur, la gentillesse, l'amitié. Donc il y a une protestation intime, il y a un amour intime des serfs et de la campagne, lié, hein, la nature et le cerf sont pour lui indissociables l'un de l'autre.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Les lieux qu'il traversait ne pouvaient guère être qualifiés de pittoresques. Des champs, encore des champs, s'étiraient sans fin jusqu'à la ligne d'horizon. Ici et là, on pouvait voir des rivières aux berges défoncées, de minuscules étangs dont les digues étaient en mauvais état, de maigres villages aux isbas chétives sous leurs toits de chaume sombre, de petites granges toutes de guingois, des églises avec leurs crépis détachés par endroits, avec leurs croix penchées et leurs cimetières délabrés. Arcade sentait son cœur se serrer peu à peu. Tous les paysans qu'il croisait étaient vêtus de guenilles. Les saules et les trembles qui poussaient le long de la route avaient l'air de mendiants en haillons, dépouillés de lambeaux d'écorce. Au beau milieu de la splendeur de cette journée printanière se dressait le fantôme blanc de l'hiver. De l'hiver sinistre, interminable. Avec ses tempêtes, ses gels et ses neiges. Non, pensa Arcade, assis dans la troïka auprès de son père. Il n'est pas riche, ce pays. Des réformes sont indispensables, mais comment les réaliser? Comment s'y prendre? Ainsi méditait-il, et tandis qu'il méditait, le printemps, lui, s'en donnait à cœur joie. Tout alentour verdoyait d'un vert doré. Tout palpitait et brillait généreusement, suavement, au souffle ténu d'une brise tiède. Tout, les arbres, les buissons et les herbes, partout l'air ruisselait du chant sonore, interminable des alouettes. Arcade s'emplissait les yeux de ce spectacle et peu à peu sa méditation se relâchait, s'évanouissait. Il se débarrassa de sa capote et regarda son père si joyeusement, d'un air si jeune, si petit garçon, que celui-ci de nouveau le serra dans ses bras. « Nous ne sommes plus loin maintenant, » fit remarquer Nikolaï Petrovitch. « Tiens, si l'on montait seulement sur cette butte, on verrait la maison, notre demeure de Marino. Nous allons nous entendre à merveille tous les deux, Arcade. Maintenant que tu as fini tes études, tu m'aideras à m'occuper du domaine, pourvu que cela ne t'ennuie pas. Il faut que nous soyons très proches l'un de l'autre, que nous apprenions à bien nous connaître, après 3 ans de séparation, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » dit Arcade. « Mais quelle bonne journée nous avons aujourd'hui !» C'est en ton honneur, mon cher enfant. Oui, le printemps est dans tout son éclat. Ce retour du fils prodigue ouvre l'un des plus beaux romans russes du 19e siècle, Père et fils d'Ivan Turgenev. Publié en 1862, un an après l'abolition du servage, le livre incarne le passage de l'ancienne à la nouvelle Russie avec ses espoirs et ses désillusions. 10 ans plus tôt, Turgenev décrivait la vie des paysans russes dans un célèbre recueil de nouvelles, Mémoire d'un chasseur. L'œuvre a été censurée et l'auteur condamné à 1 mois de prison et 5 ans d'extradition. Contraint à l'exil, l'écrivain partage dès lors sa vie entre la Russie et la France, où il finira ses jours en 1883 à l'âge de 65 ans. Mais revenons en Russie. En 1859, l'année où se déroule l'action de père et fils. Propriétaire terrien aux idées libérales, Nikolaï Petrovitch Kirsanov a partagé ses terres avec ses paysans. Ce jour de printemps, l'homme se réjouit du retour de son fils unique, Arcade. Mais celui-ci n'est pas seul. Il est accompagné d'un camarade, un étudiant en médecine, un peu plus âgé que lui, Eugène Bazarov. Partisan du mouvement nihiliste à la mode à l'époque, ce garçon provocateur rejette toute autorité et rêve de faire table rase du passé. À sa publication, père et fils fait scandale. car il aborde pour la première fois le conflit des générations qui oppose les pères de la Russie, issus de la noblesse, et les enfants, annonçant le mouvement pré-révolutionnaire. Ouvrons ce roman filial qui se lit comme une fable. Une fable qui, le temps d'une saison incertaine, fait vaciller les certitudes. Une saison trouble aussi, où la jeunesse découvre les promesses et les pièges de l'amour. Découvrons l'ambiance qui règne au domaine de Marino. Deux semaines après l'arrivée des deux jeunes gens, les tensions s'exacerbent entre les pères et les fils. Accueilli au sein d'une famille dont il méprise l'art de vivre, Eugène Bazarov tente d'ouvrir les yeux à son ami et jeune protégé, Arkade. Son père, Paul Petrovitch, lui apparaît comme un homme faible qui, depuis qu'il est veuf, s'est amouraché de la servante, Fenechka, dont il vient d'avoir un bébé. Parmi les occupants des lieux, Bazarov ne supporte pas l'oncle, Paul Petrovitch, un vieil aristocrate célibataire qui se donne des allures de dandy anglais. L'étudiant ne se gêne pas pour critiquer ses hôtes, les targuant d'hommes dépassés et d'incorrigibles romantiques, tandis que les nihilistes, dont il fait partie, sont des hommes d'avenir, croyant en la science et au progrès. Le jeune médecin rêve de disséquer la société russe comme il dissèque les grenouilles. « Puis-je vous poser une question ?» dit Paul Petrovitch, les moustaches frémissantes. « D'après vous, les mots « canaille » et « aristocrate » ont le même sens. Une opinion que je ne partage pas. Il est de mon devoir de vous le déclarer. L'aristocratisme est un principe et à notre époque, seuls des êtres immoraux ou totalement creux peuvent vivre sans principe. Je disais cela à Arkade le lendemain de votre arrivée et je le répète maintenant devant vous. N'est-ce pas, Nicolas ?» Nicolas Petrovitch acquiesça et Bazarov absorba paresseusement une gorgée de thé avant de répondre « Aristocratisme, libéralisme, progrès, principe, dis donc, que de mots étrangers et inutiles. Rien d'étonnant à ce que les Russes n'en aient aucun besoin. Ces abstractions ne sont pas pour nous. Vous insultez le peuple russe. Je ne comprends pas comment on peut refuser d'admettre des principes, des règles. En vertu de quoi agissez-vous donc ?
Nous agissons en vertu de ce que nous reconnaissons comme utile. À l'époque actuelle, ce qu'il y a de plus utile, c'est la négation. Donc nous nions.
Tout ?
Tout.
Comment tout ? Non seulement l'art, la poésie, mais même, j'ose à peine le dire, la famille ?
Absolument tout.
Comment ? La famille telle qu'elle existe chez nos paysans ?
Là-dessus aussi, je présume, mieux vaut ne pas entrer dans les détails. Vous avez certainement entendu parler des beaux-pères qui abusent de leur bru dans les campagnes ?
Ici, Nicolas Petrovitch prend la parole.
Tout de même, si je peux me permettre d'intervenir, dit Nicolas Petrovitch, vous niez tout, ou plus exactement, vous détruisez tout. Mais enfin, il faut bien construire aussi.
Cela n'est pas notre affaire, il faut d'abord déblayer le terrain.
Non, s'écria Paul Petrovitch dans un sursaut de révolte. Non, le peuple russe n'est pas tel que vous le dépeignez. Il a le culte des traditions, il est patriarcal, il ne peut pas vivre sans foi.
Vous prétendez connaître le peuple russe, mais ne suis-je pas russe moi aussi ?
Non, vous ne l'êtes pas, après tout ce que vous venez de dire.
Mon grand-père labourait la terre. Demandez à n'importe lequel de vos paysans en qui, de nous deux, il reconnaît le plus volontiers un compatriote. Vous ne savez pas seulement lui parler.
Vous lui parlez, vous, mais vous le méprisez en même temps. Le peuple a sa dignité, tout comme j'ai le sentiment de ma propre dignité, moi, monsieur, monsieur le prétendu docteur. Messieurs, je vous en prie, pas de personnalité, s'écria Nicolas Petrovitch en se levant. Paul Petrovitch sourit et obligea son frère à se rasseoir en lui posant la main sur l'épaule. « Agir, détruire. Mais comment peut-on détruire sans savoir pourquoi ?»
Bazarov ne répondit rien. Il était tout à coup furieux contre lui-même de s'être laissé aller à tant parler devant ce seigneur.
« Nous détruisons parce que nous sommes une force », déclara soudain Arkade. Paul Petrovitch regarda son neveu avec un sourire ironique.
« Pauvre malheureux, sais-tu seulement à quoi tu apportes ton soutien en Russie avec ta formule prétentieuse et vulgaire ? La force, ça mène à quoi ? Ce que nous chérissons, nous, c'est la civilisation. Oui, oui, cher monsieur. Et puis enfin, rappelez-vous, messieurs les forts, que de l'autre côté, ils sont des millions qui ne vous laisseront pas fouler aux pieds leurs convictions les plus sacrées et qui vous écraseront. » Nous sommes plus nombreux que vous le croyez.
Quoi ?
Sans rire, vous pensez venir à bout du peuple entier ? Rappelez-vous Napoléon et la logique de l'histoire, répondit Bazarov, avec cette fois une insolence marquée. Une bougie d'un copec a bien suffi pour brûler Moscou, vous savez.
Ah, bravo ! Bravo. Écoute bien, Arcade. Autrefois, les jeunes gens étaient tout bonnement des propres à rien, et maintenant, les voilà d'un coup promus nihilistes.
Tiens, ce sentiment de votre propre dignité dont vous parliez tant est en train de vous trahir, on dirait. Notre discussion est allée trop loin. Mieux vaut l'interrompre, il me semble.
Vous persiflerez tout.
Non, nous disséquerons des grenouilles. Viens, Arcade. Au revoir, messieurs.
Ah, il ne croit pas au principe, mais il croit aux grenouilles.
Les deux amis partirent et les frères, restés face à face, s'entre-regardèrent, d'abord en silence.
« Et voilà, » dit enfin Paul Petrovitch, « la jeunesse d'aujourd'hui. Les voilà, nos héritiers. »
À propos du nihilisme, je crois qu'on peut partir de ce que dit Nietzsche.
Alain Badiou, philosophe.
Nietzsche dit quelque part que l'homme préfère vouloir le néant que ne rien vouloir. Le nihilisme est en réalité une volonté. Alors une volonté, c'est quoi ? Bien, une volonté, c'est toujours, surtout si on le prend au sens de Nietzsche, une manière de donner un sens. Et finalement, on pourrait dire que le nihilisme, c'est la volonté ou le désir paradoxal de donner au monde le sens de son absence de sens, ou le sens de son néant de sens.
Quelques jours plus tard, nos deux étudiants font leur entrée dans le beau monde. Invités par un parent devenu haut fonctionnaire, Arkad et Bazarov se rendent à la ville voisine, où ils retrouvent par hasard un autre disciple de Bazarov, un certain Sitnikov, fils d'un négociant en vin en tournée dans la région. Ensemble, ils fréquentent le salon d'une courtisane, Madame Koukchine, réputée pour ses idées féministes et socialistes. Nos jeunes gens s'encanaillent, mais aspirent à une meilleure compagnie. Enfin, l'occasion se présente. Ils sont invités au prestigieux bal du gouverneur, où ils espèrent rencontrer la femme la plus convoitée de la ville. Arkad dansait mal et Bazarov ne dansait pas du tout. Ils se casèrent tous les deux dans un petit coin où Sitnikov vint les rejoindre. Celui-ci jetait autour de lui des regards effrontés et apparemment se délectait de la fête. Soudain, il changea de visage, se tourna vers Arkad et lui dit avec une sorte d'embarras « Madame Odinsov est là ». Arkad leva les yeux. Une femme de haute taille en robe noire venait de s'arrêter à l'entrée de la salle. Il fut frappé par la dignité de son maintien. Ses bras nus retombaient gracieusement le long de son corps harmonieux. Elle était très belle, avec ses cheveux brillants ornés de légères tiges de fuchsia dont les clochettes caressaient ses épaules un peu tombantes. Le regard de ses yeux clairs était tranquille et intelligent. Oui, tranquille et non pas rêveur. Sous son grand front blanc légèrement proéminent et ses lèvres souriaient d'un sourire presque imperceptible. Il émanait de son visage une force caressante et douce. Sitnikov conduisit Arkad auprès de Madame Odinsov. Elle lui demanda s'il était bien le fils de Nikolai Petrovitch, mais à cet instant, un aide de camp parut tomber du ciel à ses côtés et l'invita à danser. Elle s'éloigna en regardant Arkad, sinon de haut, du moins comme une grande sœur mariée aurait regardé son très jeune frère. Madame Odinsov n'était guère plus âgée qu'Arkad, elle avait 29 ans. Mais en sa présence, on se sentait devenir un écolier, un petit étudiant de rien du tout, comme si leur différence d'âge était beaucoup plus importante. Un haut fonctionnaire s'approcha d'elle avec un air majestueux et des paroles flatteuses. Arkad se retira à l'écart, mais il continua de l'observer. Elle parlait à son danseur aussi librement qu'elle avait parlé au dignitaire. Elle tournait la tête, les yeux, avec une douceur tranquille. Une ou deux fois, elle rit doucement. Arkad conclut à part soi qu'il n'avait encore jamais rencontré de personne aussi charmante. Le son de sa voix demeurait à ses oreilles. Les plis même de sa robe semblaient chez elle retomber autrement que chez les autres femmes, avec plus de grâce et d'ampleur. Et ses mouvements étaient tout à la fois remarquablement harmonieux et naturels. Elle revenait, se rasseyait, prenait son éventail sans même que sa respiration parût accélérée, et Arkad se remettait à bavarder, tout pénétré du bonheur de se sentir près d'elle, de lui parler en regardant son beau front, tout son visage charmant, grave, intelligent. De son côté, elle parlait peu, mais certaines de ses remarques confirmèrent Arkad dans l'idée que cette jeune femme avait déjà une longue expérience du cœur et de l'esprit. Qui donc était à côté de vous quand M. Sitnikov vous a conduit près de moi ? Lui demanda-t-elle. Vous l'avez remarqué ? L'interrogea à son tour Arkad. C'est un nommé Bazarov, un de mes camarades. Arkad se mit à parler de son camarade. Cependant, la mazurka touchait à sa fin. Arkad fut saisi de regret à l'idée de devoir quitter sa cavalière. La musique s'arrêta. « Merci, » dit Madame Odintsov en se levant. « Vous m'avez promis de me rendre visite. Amenez donc avec vous votre camarade. Cela m'intéressera beaucoup de voir un homme qui a l'audace de ne croire à rien. » Nous sommes à la fin du mois de juin, l'été s'épanouit en mille promesses. Libres et désinvoltes, les jeunes gens acceptent l'invitation de Madame Odintsov et se rendent chez elle à la campagne, au domaine de Nikolskoye. Madame Odintsov, Anna Sergeyevna, de son patronyme, partage la demeure familiale avec sa jeune sœur, Katia. Reçus comme des princes, nos deux étudiants se laissent séduire par la vie de châtelain. Mais bientôt, des sensations confuses viennent ternir le tableau. La jalousie, la rivalité, puis le dépit amoureux et le renoncement guettent nos jeunes cœurs. Le nihilisme peut-il résister à l'afflux de tels sentiments ? Et l'amitié peut-elle résister aux assauts de l'amour ? Chacun sait que le temps vole parfois comme un oiseau et d'autres fois se traîne comme un ver de terre. Mais c'est quand on ne remarque pas s'il passe vite ou lentement qu'il est le plus heureux. Il en fut ainsi pour Arkad et pour Bazarov, pendant le séjour de 2 semaines qu'ils firent chez Madame Odintsov. Cela dit, un changement s'était produit chez les deux jeunes gens dès les premiers jours de leur visite à Nikolskoye. Bazarov, à qui Anna Sergeyevna montrait visiblement une préférence, bien qu'elle ne partagea rarement ses opinions, manifesta subitement une agitation inusitée chez lui. Il s'énervait facilement, répugnait à parler, avait un visage contrarié. C'était plus fort que lui, il ne pouvait pas tenir en place. Quant à Arkad, qui s'était définitivement convaincu dans le secret de son cœur qu'il était amoureux de Madame Odintsov, il tomba dans une douce mélancolie. Cette mélancolie ne l'empêchait pas d'ailleurs de se rapprocher de Katia. Elle l'aida même à se lier avec elle d'une camaraderie affectueuse. Katia sentait obscurément qu'il recherchait dans sa compagnie la consolation de quelques douleurs et elle ne lui refusait pas non plus qu'à elle-même le plaisir innocent d'une amitié mi-réservée, mi-confiante. Arkad se trouvait bien avec Katia et Madame Odintsov avec Bazarov. C'est pourquoi les choses se passaient généralement ainsi. Les deux couples se tenaient compagnie un moment, puis se séparaient en 2 groupes, surtout pendant les promenades. Katia adorait la nature et Arkad l'aimait. Madame Odintsov y était assez indifférente, tout comme Bazarov. La séparation à peu près continuelle dans laquelle vivaient les deux amis ne fut pas sans conséquence. Leurs anciens rapports commencèrent à se modifier. Bazarov cessa de parler de Madame Odintsov avec Arkad. Il cessa même de maugréer contre ses façons d'aristocrate. Et d'une façon générale, il causait beaucoup moins qu'avant avec Arkad. Il semblait l'éviter. Il semblait gêné devant lui. La vraie raison de toute cette nouveauté était le sentiment inspiré à Bazarov par Madame Odintsov. Un sentiment qui le torturait, qui le rendait furieux. Bazarov était grand amateur de femmes et de beauté féminine. Mais l'amour, au sens idéaliste ou, comme il disait, romantique du terme, était traité par lui de galimatia et de lubie inexcusable. Les sentiments chevaleresques relevaient à ses yeux de l'anormalité ou de la maladie. Madame Odintsov lui plaisait. Les bruits qui couraient sur elle, sa liberté et son indépendance d'esprit, son penchant évident pour lui, tout, semblait-il, parlait en sa faveur. Mais il comprit vite qu'avec elle, il ne parviendrait pas à ses fins. Or, à son grand étonnement, il n'avait pas la force de se détourner d'elle. Tout son sang s'échauffait dès qu'il pensait à elle. Dans ses conversations avec Anna Sergeyevna, il proclamait plus hautement que jamais son mépris indifférent pour toutes les manifestations de romantisme. Mais une fois seul, il découvrait avec rage la présence d'un romantique en lui-même. Alors il s'en allait dans la forêt, et il y marchait à grands pas, cassant les branches qu'il rencontrait sur son chemin, l'injuriant elle, s'injuriant lui-même à mi-voix. Ou bien il grimpait sur un tas de foin dans la grange et fermant les yeux obstinément, il tentait vainement de dormir. Il s'imaginait tout à coup que ses bras chastes pourraient s'enrouler autour de son cou, que ses lèvres pourraient répondre à ses baisers. Et alors la tête lui tournait, Pendant un instant, il ne savait plus où il était, jusqu'à ce que la rage le submerge à nouveau. Il se surprenait à cultiver toutes sortes de pensées honteuses, comme si le diable le harcelait. Il haletait. Un tremblement visible secouait tout entier. Ce n'était pas le tremblement d'un jeune homme timide. Ce n'était pas le doux effroi d'un premier aveu. Ce qui le secouait, c'était la passion. Une passion puissante, pesante. Une passion qui ressemblait à de la haine. Sœur de la haine, peut-être. Emporté par des pulsions contradictoires, Bazarov affiche une attitude de plus en plus malsaine. Fuyant ses sentiments pour Madame Onintsov, Bazarov décide de prendre congé et de rentrer quelques jours chez ses parents, de modestes fermiers installés non loin de là. Trois jours plus tard, Bazarov écourte son séjour chez ses parents et souhaite revenir chez les Kirsanov à la maison de Marino où il a laissé son matériel d'études. À peine de retour, Arkad décide de fuir à son tour. Il se rend à Nikolskoye où il espère retrouver Katia. Pendant ce temps, resté seul, Bazarov s'étourdit de travail comme pour faire taire une tentation maléfique au plus profond de lui. Nicolas Petrovitch se doutait bien que la haine de son frère envers Bazarov n'avait aucunement diminué. Un événement sans importance parmi bien d'autres vint confirmer ses pressentiments. Bazarov travaillait avec une sombre ténacité. Cependant, il y avait dans la maison une personne avec qui il aimait bavarder, sinon vraiment soulager son cœur. Cette personne était Fenechka, la douce compagne de Nicolas Petrovitch. Bazarov plaisait à Fenechka, mais elle lui plaisait aussi. Son visage même changeait quand il bavardait avec elle. Il s'éclairait, devenait presque bon, tandis qu'une espèce de sollicitude amusée venait se mêler à sa désinvolture habituelle. il y a dans la vie des jeunes femmes une époque où elles s'épanouissent tout à coup et gonflent leurs corolles comme des roses d'été. Cette époque était arrivée pour Fenechka. Tout concourait à son éclat, même la chaleur torride de ce mois de juillet. Un matin, à 7 heures, Bazarov, qui revenait de promenade, trouva Fenechka sous la tonnelle d'acacia, qui restait verte et fournie, bien que ses fleurs fussent depuis longtemps fanées. Elle était assise sur le banc, un fichu blanc sur la tête selon son habitude. Toute une brassée de roses rouges et blanches, encore humides de rosée, gisait à côté d'elle. Elle lui souhaitait le bonjour. « Ah, Eugène Vassilievitch !» dit-elle en relevant un peu le bord de son fichu, ce qui eut pour effet de dénuder son bras jusqu'au coude. « Que faites-vous là ? Un bouquet ?»« Oui, pour orner la table du déjeuner. Nikola Petrovitch aime bien cela. » Vous savez, au fait, que depuis que vous m'avez donné ces gouttes, vous vous rappelez ce que mon petit bébé dort bien. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Vous êtes si bon, c'est vrai. Eh, mais sérieusement, cela se paye, les médecins, dit Bazarov avec un sourire moqueur. Vous savez comme ils sont intéressés, ces gens-là. Fenechka leva les yeux sur Bazarov. Elle ne savait pas s'il plaisantait ou non. Si vous y tenez, il faudra demander à Nikola Petrovitch. Mais qu'allez-vous penser? Que je veux de l'argent? L'interrompit Bazarov. Non, ce n'est pas de l'argent que j'attends de vous.
Quoi, alors?
Quoi? Devinez, dit Bazarov.
Comment voulez-vous que je devine?
Alors je vais vous le dire. Il me faut une de ces roses. Fenechka se mit à rire et même joignit les mains tant le désir de Bazarov lui parut plaisant. Elle riait, mais cela ne l'empêchait pas de se sentir flattée. Bazarov la regardait avec insistance. « Mon Dieu, si vous y tenez !» dit-elle enfin, et penchée sur le banc, elle se mit à choisir parmi ses fleurs. « Tenez !» dit-elle. Mais tout de suite, elle retira la main qu'elle avait avancée et, se mordant les lèvres, jeta un coup d'œil vers l'entrée de la tonnelle. Puis elle tendit l'oreille. « Qu'est-ce ? » demanda Bazarov. « Nikola Petrovitch ? » ?»« Non, il est parti au champ. Et puis je n'ai pas peur de lui. Mais Paul Petrovitch, il essaye tout le temps de m'effrayer. Et cette manière bizarre qu'il a de me regarder, vous non plus, vous ne l'aimez pas d'ailleurs. Rappelez-vous comme vous vous disputiez sans arrêt avant. »
Bazarov sourit. « Ah oui, nos disputes. »
Et si tout à coup il avait pris l'avantage sur moi, est-ce que vous m'auriez défendu?
Moi, vous défendre? Quelle idée! Et puis d'ailleurs, vous n'êtes pas homme à vous laisser faire.
Croyez-vous? Moi, je connais une main qui me renverserait d'un doigt si elle le voulait.
De quelle main parlez-vous?
Comme si vous ne le saviez pas. Sentez le parfum de la rose que vous m'avez donnée. Fenechka tendit le cou et approcha son visage de la fleur. « Attendez, je vais sentir en même temps que vous, » dit Bazarov. Et il se pencha et imprima un baiser ardent sur les lèvres entrouvertes de la jeune femme. Une toux sèche retentit derrière les lilas. Fenechka s'écarta instantanément jusqu'à l'autre extrémité du banc. Paul Petrovitch apparut et fit un petit salut de la tête. En voyant Bazarov, il dit simplement « Ah, vous êtes ici !» avec une sorte d'accablement haineux et s'éloigna. Fenechka eut au fait de ramasser toutes ses roses et de quitter la tonnelle. « C'est mal à vous, Eugène Vassilievitch, » murmura-t-elle en s'en allant. Et le reproche contenu dans ce murmure n'était pas fin. Quant à Paul Petrovitch, il sortit du jardin et gagna la forêt. Il y resta longtemps. Et lorsqu'il fut de retour pour le déjeuner, Nikola Petrovitch lui demanda avec sollicitude s'il se sentait bien, tant son visage s'était assombri. L'étudiant mesure bientôt les conséquences de son badinage. Le soir même, pour sauver l'honneur de son frère, Paul Petrovitch se rend auprès de Bazarov et le provoque en duel. Rendez-vous est pris pour le lendemain matin, à l'aube, en présence d'un témoin, Pierre, le valet de chambre de Nikola Petrovitch. Retrouvons nos deux duellistes en piste pour un ultime face-à-face chevaleresque. Au-delà du règlement de compte, cette épreuve réveille chez Paul Petrovitch le souvenir douloureux d'un amour perdu. Sur le chemin, Bazarov s'égarait par moments malgré lui. Il arrachait et mordillait des brins d'herbe tout en se répétant à lui-même
Quelle idiotie. Le froid mordant du petit matin le fit frissonner une ou deux fois. « Voici venir monsieur, je crois », chuchota brusquement Pierre. Bazarov leva la tête et vit Paul Petrovitch. Habillé d'un veston léger à carreaux et d'un pantalon blanc comme neige, il avançait sur le chemin d'un pas rapide. Il portait sous le bras une boîte enveloppée de drap vert. « Excusez-moi, je vous ai fait attendre, ce me semble. » « Pas du tout, nous venons à peine d'arriver. » « Ah, tant mieux. Personne en vue. Voici les armes. Nous pouvons commencer. » « Faisons preuve d'amabilité. Reconnaissez, Paul Petrovitch, que notre duel est d'un insolite frisant le comique. Vous cherchez toujours quelques sujets de plaisanterie. Je pourrais vous expliquer la raison qui me fait agir, mais je préfère la passer sous silence. Oh, je ne doute pas que nous soyons bien décidés à nous exterminer mutuellement. Je trouverais également malséant d'approfondir les causes réelles de notre conflit. Mais pourquoi ne pas en rire si l'occasion s'en présente ?» « Je me battrai sérieusement, » dit Paul Petrovitch en allant prendre sa place. Comme convenu, Bazarov compta 10 pas à partir de la barrière et s'arrêta. « Vous êtes prêts ?» demanda Paul Petrovitch. « Tout à fait. Nous pouvons nous rapprocher. » Bazarov s'ébranla lentement et Paul Petrovitch marcha sur lui, la main gauche dans la poche, en levant progressivement la bouche du revolver. « Il me vise en plein nez, » pensa Bazarov. « Et comme il plisse les yeux... » Comme il s'applique le brigand. Tout de même, c'est une sensation désagréable. Quelque chose passa tout près de son oreille avec un sifflement aigu, et au même instant, le coup retentit. Je l'ai entendu, donc je n'ai rien. Eut-il le temps de penser dans un éclair. Il fit un pas de plus et sans viser, appuya sur la gâchette. Paul Petrovitch tressaillit légèrement et porta la main à sa cuisse. Un filet de sang coula sur son pantalon blanc. Bazarov jeta son pistolet et s'approcha de son adversaire. « Vous êtes blessé ?»« Cela, c'est 3 fois rien. Selon nos conventions, chacun de nous a encore droit à un coup. »« Si vous le permettez, nous le remettrons à une autre fois, » répondit Bazarov. Et il recueillit Paul Petrovitch qui commençait à pâlir. « Maintenant, je ne suis plus duelliste, mais médecin. Et avant tout, je dois examiner votre blessure. Pierre, viens par ici. Où es-tu caché ?»« Monsieur est tué ?» questionna Pierre derrière son dos d'une toute petite voix tremblante. Paul Petrovitch perdit un instant connaissance, puis rouvrit lentement les yeux. « Mais va donc chercher de l'eau, que diable !» cria Bazarov. « Inutile, j'ai eu un instant de vertige. Aidez-moi à m'asseoir. Comme cela. Il suffit de comprimer cette égratignure et je rentrerai à pied à la maison. Notre duel ne se renouvellera pas, si vous êtes d'accord. Vous avez agi avec noblesse ce matin. Ce matin seulement, notez-le bien. » « Nous n'allons pas revenir sur le passé, » répondit Bazarov. « Et en ce qui concerne l'avenir, inutile là encore de se casser la tête, car j'ai l'intention de filer d'ici sans tarder. Laissez-moi pour le moment vous bander la jambe. Votre blessure n'est pas dangereuse. » Pierre partit comme une flèche. Les deux adversaires restèrent, assis par terre, sans se parler. Paul Petrovitch essayait de ne pas regarder Bazarov. En dépit de tout, il n'avait pas envie de se réconcilier avec lui. Il était honteux de son arrogance, de son échec. Le silence s'éternisait, un silence lourd et gênant. Puis Paul Petrovitch murmura « Mon frère ne s'y trompera pas. Il faudra lui dire que nous nous sommes querellés à propos de politique. »« Très bien, » dit Bazarov. « Vous pouvez lui dire que j'ai insulté tous les anglomanes. » Une heure plus tard, Paul Petrovitch était sur son lit, la jambe adroitement bandée. Toute la maison était sans dessus-dessous, Fenechka s'était trouvée mal. À l'approche de la nuit, toutefois, la fièvre se déclara. Il fut pris de maux de tête. Au matin, la fièvre augmenta un peu, et le blessé eut un léger accès de délire. Voyant près de son lit le visage inquiet de son frère penché sur lui, il dit « N'est-ce pas, Nicolas, que Fenechka a quelque chose de Nelly ?»« Quelle Nelly, mon petit Pacha ?» Quelle question. Mais la princesse Nelly, que j'avais tant aimée dans ma jeunesse, surtout dans le haut du visage, n'est-ce pas ? Nicolas Petrovitch ne répondit rien, mais s'étonna à part soi de la vitalité des vieux sentiments dans la nature humaine. Tout cela remonte si loin, pensa-t-il, sans rien y comprendre. Ah, combien j'ai aimé cette douce créature, gémit Paul Petrovitch en faisant un geste désespéré.
et quelques instants après, il balbutia « Je ne souffrirai pas que le premier effronté venu ose la toucher. » Nicolas Petrovitch se contenta de pousser un soupir. Il ne soupçonnait même pas à quelle personne se rapportaient ces paroles. Dans la matinée, Fenechka se rendit au chevet de Paul Petrovitch. Elle le regarda paralysé de stupeur. Sa pâleur s'était accentuée, ses yeux scintillaient et une larme lourde, solitaire, roulait sur sa joue. « Fenechka, » dit-il dans un chuchotement bizarre, « aimez mon frère, aimez-le. C'est un homme si bon, si honnête. Ne le trahissez pour personne au monde. Pensez-y. Que peut-il y avoir de plus horrible que d'aimer et de ne pas être aimé en retour? N'abandonnez pas mon pauvre Nicolas. » Fenechka n'osa plus respirer, tant était grande sa stupéfaction. Imaginez ce qu'elle ressentit lorsque Paul Petrovitch lui prit la main, la pressa contre ses lèvres et y colla littéralement son visage, sans l'embrasser, en laissant seulement échapper un soupir convulsif. C'était toute sa vie perdue qui palpitait en lui à cet instant.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Кем полосенька твоя нынче выженится? Чернокосенька моя, чернокнижница. Дни полночные твои, век твой таборный, все работнички твои разом забраны. Где сподручники твои, те сподвижники? Белорученька моя, чернокнижница, не загладить тех могил слезой славою. Один заживо ходил, как удавленный, другой к стеночке пошел искать прибыли. И гордец же был сокол, разом выбыли. Высоко твои, братья, не докличешься. Ясноконика моя, чернокнижница, а из тучи-то хвала диво дивная. Соколиная стрела, голубиная, знать в два перышка тебе пишут тамотка, знать уж в скорости тебе выйдет грамотка, будет крылышки трепать облыженники. Чернокрылника моя, чернокнижница, будет крылышки трепать облыжники. Чернокрылника моя, чернокнижница. Кем полосенька твоя нынче выженится? Чернокосынька моя, чернокнижница.
Je crois qu'il y a un équilibre parfait entre le dit et le non-dit chez Turgenev.
Andrei Vierou, musicien.
Et c'est très rare, vraiment. En plus, il y a quelque chose qui ne cogne pas dans son message et dans sa façon de faire. Dostoïevski cogne, il cogne fort. Ce n'est pas le cas de Turgenev. Turgenev va en douceur. Il donne l'impression de dire les choses à une température basse. Chez Dostoïevski, il y a tout le temps du crime, de l'hystérie. Alors que chez Turgenev, il y a une distance entre lui et ce qu'il écrit. Et en cela, il rejoint plus la littérature française que la littérature russe, paradoxalement.
La grande leçon du roman de Turgenev est une leçon de vie avec son lot de désillusions et le difficile apprentissage du renoncement. Retrouvons Eugène Bazarov. Le lendemain du duel, il tient sa promesse et quitte la maison, bien décidé à retourner auprès de ses parents. Cependant, en chemin, il fait un détour par Nikolskoye, le domaine de Madame Odintsov, afin d'informer son ami des tristes événements. Mais Arkad a la tête ailleurs. Il vient de déclarer sa flamme à Katia et de la demander en mariage. Avec une fausse désinvolture, Bazarov renonce définitivement à l'amour d'Anna Sergeyevna. Le jour du départ sonne comme une rupture, violente et radicale, entre les deux amis. Au moment de se dire adieu, Bazarov affiche toujours le même goût de la provocation et s'entête dans la cause nihiliste. Alors ça y est, tu construis ton nid, dit-il à Arkad le même jour, tout en faisant sa valise assis sur ses talons. Ma foi, c'est une bonne chose. Mais tu n'aurais pas dû raconter toutes ces blagues. Je m'attendais à ce que tu prennes un tout autre cap, à moins que tu n'aies été le premier épaté de ce qui t'arrivait. Je ne m'attendais pas à cela, en effet, quand je t'ai quitté, répondit Arkad. Mais pourquoi racontes-tu des blagues, toi aussi? Et me dis-tu que c'est une bonne chose, comme si je ne connaissais pas ton opinion sur le mariage? Hé, cher ami, comme tu dis cela, dit Bazarov. Tu vois ce que je suis en train de faire? Il y avait une place vide dans ma valise. Alors j'y mets du foin. Dans la valise de notre vie, c'est pareil. Tassons-y n'importe quoi. L'essentiel est de combler le vide. Ne te vexe pas, je t'en prie. Tu te rappelles certainement quelle a toujours été mon opinion sur Katia Sergeyevna. Beaucoup de demoiselles passent pour avoir de l'esprit pour la seule raison qu'elles savent soupirer avec esprit. Mais ton élue saura se défendre, elle. Et si bien qu'elle aura vite fait de te prendre en main, toi aussi. Oh, d'ailleurs, tout cela est dans l'ordre des choses. Il claqua le couvercle de sa valise et se mit debout. Et maintenant, je te répète en guise d'adieu, car il ne sert à rien de nous leurrer. Nous nous disons adieu, pour toujours. Et tu le sens bien toi-même. Je te répète que tu as agi sagement. Tu n'es pas fait pour notre vie amère, âpre, de vagabond sans feu ni lieu. Il n'y a en toi ni témérité ni colère, seulement l'audace de la jeunesse, la fougue de la jeunesse. Cela ne convient pas pour notre cause. Vous autres nobles, vous êtes incapables de dépasser le stade de la noble résignation ou de la noble indignation. Or cela est du vent. Jamais vous n'en venez aux mains, par exemple, et ça se prend pour des braves. Tandis que nous, nous la cherchons, l'empoignade. Et puis que veux-tu? Notre poussière te rongerait les yeux, notre boue te tacherait. Et puis non, allez, tu n'as pas encore atteint notre envergure, tu t'admires à ton corps défendant. Cela te plaît de t'insulter toi-même. Nous, ça nous ennuie. C'est aux autres que nous en avons. Ce sont les autres que nous voulons briser. Tu es un brave garçon, mais cela ne t'empêche pas d'être un petit nobléon de seigneur libéral. Voilà tout. Tu me dis adieu pour toujours, Eugène, et tu n'as pas pour moi d'autre parole que celle-ci? Demanda Arkad d'une voix triste. Bazarov se gratta la nuque. Si, Arkad, j'en ai d'autres paroles. Mais je ne les dirai pas, parce que ce serait du romantisme. Ce serait donné dans le sirop. Marie-toi bien vite, va. Arrange-toi un bon petit nid et fais des enfants, tant et plus. Ils seront dégourdis, tout simplement parce qu'ils seront nés au bon moment, ce qui n'a pas été ton cas ni le mien. Mais les chevaux sont prêts, ce que je vois, c'est l'heure. J'ai fait mes adieux à tout le monde. Bon, alors on s'embrasse ou quoi? Arkad se jeta au cou de son ancien mentor et ami, et les larmes lui jaillirent des yeux. « Ce que c'est que la jeunesse ?» dit Bazarov sans s'émouvoir. « Mais je compte sur Katia Sergeyevna. Elle te consolera en un tournement, tu verras. Adieu, frère. Avançons dans le temps et approchons de la fin de l'histoire. Sous ses grands airs, Eugène Bazarov est en proie à une profonde crise existentielle. Pour lui, le nihilisme s'est transformé en pessimisme, puis en désespoir. Mais nous n'en dirons pas plus sur le destin qui l'attend et nous invitons le lecteur à découvrir les dernières pages sublimes du roman. Pendant ce temps, Arkad a suivi les conseils de son ami et a fait son nid. Si le dénouement semble heureux, Tourguéniev en tire une leçon amère. Les saisons passent comme les passions, comme le vent de la révolte. Et le conformisme des pères l'emporte sur l'éphémère exaltation des fils. 6 mois plus tard, c'était l'hiver tout blanc d'une sérénité cruelle, avec ses journées de grand gel sans un nuage, l'hiver et sa neige compacte, craquante, son givre rose aux branches des arbres, son ciel d'un pâle émeraude et les cheminées encapuchonnées de fumée, les volutes de vapeur s'échappant de la moindre porte entrouverte, la fraîcheur des visages comme mordus par le froid et le trot hâtif des malheureux chevaux transis. L'après-midi de janvier touchait à sa fin. Le froid du soir tombant renforçait encore son emprise sur l'air immobile et les rayons sanglants du crépuscule couraient rapidement à leur déclin. 2 feux s'allumaient aux fenêtres de la maison de Marino. En habit noir et en gants blancs, le maître d'hôtel mettait le couvert pour 7 personnes avec une solennité particulière. Une semaine auparavant, dans la petite église paroissiale, 2 mariages avaient été célébrés sans bruit, presque sans témoin, celui d'Arkad et de Katia, celui de Nikola Petrovitch et de Fenechka. Et ce jour même, Nikola Petrovitch offrait un dîner d'adieu à son frère qui se rendait à Moscou pour affaires. Anna Sergeyevna était partie pour cette ville aussitôt après les noces de sa sœur, non sans avoir généreusement doté le couple. À 3 heures précises, tout le monde se retrouva autour de la table. Paul Petrovitch prit la place entre Katia et Fenechka. Les maris s'assirent près de leur femme. Nos amis avaient changé ces derniers temps. Ils paraissaient tous embellis, plus étoffés. Seul Paul Petrovitch avait maigri suite à sa blessure, ce qui d'ailleurs accentuait encore la distinction, le genre grand seigneur de ses traits expressifs. Fenechka aussi était différente. Elle gardait une immobilité respectueuse envers elle-même, envers tout ce qui l'environnait, et souriait comme pour dire « Je vous en prie, excusez-moi, ce n'est pas ma faute. » D'ailleurs, tous les autres souriaient aussi et semblaient aussi s'excuser. Ils se sentaient tous un peu gênés, un peu tristes, et en réalité, très heureux. Chacun rivalisait d'attention envers son voisin avec une prévenance amusante, comme si tout le monde s'était mis d'accord pour jouer une gentille comédie sans prétention. À la fin du dîner, Paul Petrovitch embrassa tout le monde. En outre, il baisa la main de Fenechka, une main qu'elle ne savait pas encore tendre correctement. Tout en buvant sa 2e coupe de champagne, il exhala un profond soupir et dit « Soyez heureux, mes amis. Farewell. » Ce petit mot de la fin en anglais passa inaperçu, mais tous les cœurs furent touchés. Adieu donc, cher lecteur, et célébrons la vie qui n'a pas de fin.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudien, avec à la technique Cédric Chatelus. Elle a été préparée par Estelle Gab, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.